C'était il y a 10 ans, le 24 mai 2015, la publication d'une encyclique prophétique, Laudato aussi, le cri du peuple et le cri de la terre se répondant dans un dialogue. Laudato aussi, loué sois-tu mon Seigneur, le cantique chanté par saint François d'Assise, rappelant que la maison commune est comme une sœur et comme une mère, une sœur qui souffre, une mère qui crée la vie. Ce texte du pape François a résonné et résonne encore dans la société tout entière, et bien évidemment dans l'Église, et d'une manière toute particulière dans la Compagnie de Jésus. Les mots du premier pape jésuite sur la protection de la maison commune ont transformé la dynamique de la Compagnie. Comme nous l'explique ce matin le père Olivier de Wavrin, il est délégué Laudato si dans la province jésuite d'Europe occidentale francophone. On l'écoute.
L'encyclique Laudato si, il me semble, nous a permis aux jésuites, mais à d'autres aussi, de mettre des mots sur des aspirations qu'on avait. Disons, l'intuition qu'on pouvait avoir et le désir qu'on avait, c'était que, puisque notre mission comme jésuites, c'est de collaborer à la mission de réconciliation du Christ, en fait, cela implique de collaborer à la sauvegarde de la maison commune. Et en publiant Laudato si, le pape nous a donné des mots, et ce qu'on a pas mal retenu, ça a été, enfin, un peu comme tout le monde, le cri de la terre, où la clameur de la terre rejoint la clameur des pauvres, et comme une manière de se rapporter à l'environnement, parce que du coup, il s'agit de se demander quel cri est-ce qu'on est encore capable d'écouter, quelle clameur est-ce qu'on entend, et donc il s'agit d'écoute et de surdité, et en fait, on entre déjà dans le vocabulaire de la foi, quasiment, c'est-à-dire d'identifier des résistances à l'écoute, et puis voilà, de se laisser façonner par ce qu'on écoute. En fait, il s'agit de toucher l'homme ou la femme au cœur. C'est d'abord une démarche de conversion.
À la suite de Laudato si, la sauvegarde de la maison commune est devenue l'une des 4 préférences apostoliques universelles des jésuites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie ?
Donc, on a 4 domaines dans lesquels on considère qu'on préfère agir quand on a le choix. Et en fait, c'est intéressant parce que on pourrait se dire assez simplement, notre monde ne va pas bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous comme jésuites, pour aider à ce que ce monde aille mieux? Et en fait, la réponse, c'est les 4 préférences apostoliques. C'est-à-dire, en fait, la réponse, elle passe par une conversion du cœur. Et donc, nous jésuites devons aider à montrer le chemin vers Dieu. Et elle passe aussi par l'écoute des plus pauvres, l'écoute des rêves des enfants et des jeunes, et la sauvegarde de la création. Et en un sens, Laudato si, l'écologie intégrale, c'est une manière de penser la sauvegarde de la création en lien avec la justice intergénérationnelle, en lien avec la justice sociale dès maintenant, et en lien avec une conversion.
Comment, finalement, le style ignatien et la question écologique sont-ils compatibles ?
Peut-être que on a lu Laudato si comme ignatien et que du coup on la comprend avec notre prisme et peut-être que les carmes l'auront comprise autrement, et c'est la richesse de l'Église d'ailleurs. Mais effectivement, en fait, en parlant d'écologie intégrale et de Laudato si, en se disant en fait il s'agit d'opérer une conversion, un changement de culture et une conversion, alors je pense que ce qui devient prioritaire, c'est de se dire, mais en fait, en se liant davantage au Christ, à ce moment-là, vont naître des résistances. Et du coup, les résistances à la transition écologique deviennent des signes d'un attachement, en fait. C'est parce qu'on s'attache davantage qu'on entend des résistances. Alors, la frontière est ténue entre être borné et, c'est-à-dire continuer malgré tout, et persévérer dans l'intuition qu'il s'agit du bon esprit. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu de spirituel et de discernement que la conversion écologique fait émerger, en fait. Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de reconnaître que nos modes de vie actuels, il faut les changer? Et il me semble que il y a un mot qui, pour moi-même, en fait, que je redécouvre en ce moment, qui est qu'il s'agit de collaborer à la sauvegarde de la maison commune.
Est-ce que l'éco-spiritualité arrive à prendre sa place?
Alors, je crois, c'est vrai que la discipline éco-spiritualité semble assez récente, et de fait, il y a peu de publications et de recherches en éco-spiritualité, et encore moins en éco-spiritualité ignatienne, si tant est que la discipline existe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il commence à y avoir un certain nombre de chrétiens qui commence à penser une spiritualité en relation avec la Terre. Et en un sens, du coup, c'est peut-être l'émergence d'une forme d'éco-spiritualité. Alors, ce qui est toujours intéressant avec ce mot, c'est qu'il aide à montrer que c'est une spiritualité de la relation, c'est de la relation à la Terre en particulier. Ce qui est dangereux, ce serait de faire de l'éco-spiritualité une sorte de la régionaliser, en fait, dans la cartographie de la spiritualité, alors qu'on peut imaginer, espérer que, d'une certaine manière, toute spiritualité chrétienne implique un rapport au créateur et donc à la création, quoi. Et en un sens, c'est pour ça que je pense que, d'une certaine manière, il y avait des fragments qui existaient un peu de manière incubative, quoi.
Dans un monde où on traverse, comme le disait François, une troisième guerre mondiale par morceaux, comment réussir à convaincre que la question écologique doit rester une priorité ?
La question écologique, comme la question migratoire en Europe, mais peut-être plus généralement en Occident, sont des questions qui polarisent. Donc il y a les pour et les contre. Et on peut très bien se dire, oui, mais en fait, c'est bon, la question écologique, c'est pas si grave. Bon. Tout comme on pourrait résoudre la question migratoire en disant je veux accueillir les migrants ou je ne veux pas accueillir les migrants, ce qui est dans les deux cas, bon ben on a dit quelque chose et après qu'est-ce qui se passe quoi. Et je pense que en particulier, en tout cas l'expérience que j'ai, c'est que en parlant avec les gens, voilà, de manière assez simple, qu'ils soient d'accord ou pas pour, enfin voilà, qu'ils considèrent que l'écologie est une idéologie ou pas, tout le monde est à peu près d'accord pour dire bon ben notre monde, il y a des très belles choses, mais ça va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre meilleur, quoi, pour pouvoir se dire, ben, j'aurai légué aux générations futures un monde qui, certes, ne sera pas parfait, mais sera meilleur. Et si on parle de l'écologie en général, bon, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est difficile d'appréhender, en fait, cette notion. Mais quand on dit, ben, voilà, en fait, je sais pas, on voit plus de libellules en France, on voit quasiment plus de papillons. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de coquelicots? Ben, en fait, ça, les gens sont sensibles. Alors, bon, c'est sûr, on ne résout pas des problèmes planétaires en parlant des coquelicots. Et en même temps, ben, c'est comme ça que les gens sont touchés. Donc, il faut partir de là. Enfin, comment ça se fait qu'il y a 2 semaines, on a eu des grêlons énormes à Paris? C'est pas normal. Et bon, est-ce que c'est ça bon, est-ce qu'on accepte que ça devienne la norme? Ben, je sais pas, c'est des choix de société. Hein. mais souvent, disons... Moi, je crains beaucoup l'approche qui consiste à essayer de convaincre, alors qu'en fait, je reste persuadé que implicitement, chacun en son fond intérieur a, en fait, reconnaît qu'on est dans une période de changement. Et c'est angoissant parce que personne ne peut dire ce que sera le monde ou même l'Union européenne dans 10 ans. On ne sait pas. C'est vrai. Et personne ne sait. Mais en un sens, je crois que l'écologie est une bonne occasion, enfin, c'est un bon exercice, et de se dire que, de fait, on ignore quelle sera, ne fût-ce que la température à Paris ou à Bruxelles dans 10 ans. Mais on peut se dire, enfin, on peut faire le choix dès aujourd'hui de se dire, bah, comment est-ce qu'on veut faire la traversée dès aujourd'hui? Et le pari de Laudato Si, c'est, on fera la traversée avec les plus pauvres et on fera la traversée en écoutant les écosystèmes, en écoutant le cri des plus pauvres et de la Terre, quoi.
Finalement, quelles sont les voies concrètes pour une transition écologique dans la vie en communauté, dans un ordre religieux ?
Alors, donc nous, par exemple, sur la province d'Europe occidentale francophone, ça veut dire France, Belgique, Luxembourg, et puis aussi Grèce, Maurice et Réunion. Donc, on a une newsletter très concrète tous les mois, donc qui permet de s'informer mutuellement sur les questions de transition écologique, d'avoir des ordres de grandeur, etc. Et puis des idées de petites actions qu'on peut faire. Après, nous, à l'échelle de la province, on a fait réaliser par tous les compagnons un premier bilan carbone il y a 3 ans. Et donc chaque compagnon connaît non seulement son empreinte carbone, mais ses évolutions. Après, on a eu une retraite de province sur Laudato aussi, donc vraiment la conversion personnelle et la conversion écologique liées. Voilà, c'est des petites choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours lier conversion individuelle et travail communautaire, discernement en commun. On a des soirées de communauté sur la question écologique, des temps de prière en lien avec la question écologique, pour que l'écologie, on puisse infuser, en parler, choisir aussi ensemble ce qu'on fait, comment on fait évoluer nos modes de vie, donc en passant à des repas plus végétariens, etc. Et puis après, au niveau du gouvernement donc de la province, donc il y a une décision au niveau de la province qui a été prise. Donc le premier aspect, c'était On continue les efforts pour se sensibiliser mutuellement aux questions écologiques, donc un premier point. Deuxièmement, on réduit le chauffage à 19 dans toutes nos maisons. Troisièmement, pour tous les déplacements de moins de 12 heures, on doit opter pour le transport terrestre plutôt que le transport aérien. Donc en fait, basiquement, ça veut dire que le Paris-Rome, on le fait toujours en train. Et puis, on passe à 9 repas végétariens par semaine au minimum dans chaque communauté. Donc ça a été une décision de la province pour, voilà, à partir du premier bilan carbone, on s'est dit, ben voilà, nos principaux postes d'émission, c'est ça, et tout le monde avance.
Voilà, le père Olivier de Wavrin, délégué Laudato Si dans la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Et comme tous les dossiers de Radio Vatican, cette interview sera disponible sur notre site internet www.vaticannews.va.